France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'un des drames méconnus de l'occupation, l'hécatombe des fous. Entre 1940 et 1945, 45 000 malades mentaux sont morts de faim et de froid dans les hôpitaux psychiatriques français, et ce, dans l'indifférence générale. Après la libération, rien n'est fait pour rendre hommage à ces victimes invisibles. Il faudra attendre la fin des années 80 pour que ce pan oublié des années noires ressurgisse grâce à une controverse. Selon plusieurs psychiatres, en effet, le régime de Vichy aurait planifié la famine et donc l'extermination des malades. Certains font même le parallèle avec les crimes du régime nazi, tout en pointant du doigt les historiens accusés de participer à la conspiration du silence. Alors, que s'est-il réellement passé derrière les murs des hôpitaux psychiatriques? Vichy a-t-il vraiment exterminé ces malades mentaux dans une logique ouvertement eugéniste? Et pourquoi cet épisode funeste de la Seconde Guerre mondiale est-il resté occulté pendant des décennies? Notre invitée aujourd'hui, l'historienne Isabelle von Bülsing-Loven. Elle a enquêté sur ce drame et en a tiré un livre, « L'hécatombe des fous », publié en 2009 aux éditions Flammarion. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire, Raphaël Pueyo, rédaction en chef Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca de Nantes. Réalisation, Juliette Gou.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
août 1944, Paris. Il est 20h passées, le soleil se couche sur les Champs-Élysées. Au loin, l'Arc de Triomphe se détache sur l'horizon rougi par les incendies. Des hommes et des femmes dansent et chantent en chœur. Tous savourent cette liberté retrouvée après 4 ans d'occupation allemande, comme en témoigne ce reportage d'un journaliste de la BBC.
Nous vous parlons maintenant des rues de Paris. On vient d'entrer aujourd'hui. C'est un jour que je crois que personne n'oubliera. Maintenant, je voudrais demander à quelques vrais Français de Paris de vous dire quelques mots.
Oh, nous sommes tellement contents, very happy.
Et vous, monsieur, dites-nous quelque chose.
Je suis très émotionné de voir toute cette belle armée qui nous fait réellement notre joie à tous. Et je crie vive la France et vive les alliés.
La bataille de Paris est terminée, mais la guerre, elle, est loin d'être gagnée. À 90 km au nord, dans la petite ville de Clermont-de-l'Oise, tous les habitants sont barricadés chez eux. De leurs fenêtres, ils observent un drôle de convoi. Dans la pénombre, une colonne de chars américains se dirige lentement vers l'hôpital psychiatrique, une ville dans la ville, qui s'étend sur plus de 500 hectares, avec sa ferme, sa brasserie, son cimetière. Il est minuit passé, quand le bataillon américain franchit le grand portail métallique de l'hôpital. Lampe torche à la main, les GIs partent inspecter l'un des pavillons. Au détour d'un couloir, ils poussent une porte. La suite, c'est le directeur régional de la santé qui la raconte dans un rapport du 21 novembre 1944.
À Clermont-de-l'Oise, j'ai vu le spectacle d'une telle misère qu'il nous replonge en plein Moyen-Âge. Les dortoirs sont remplis de malades décharnés et squelettiques. Leur température corporelle n'atteint même pas les 36 degrés. Certains pèsent moins de 30 kilos. Tous attendent de mourir de faim dans leur lit et presque tous sont couverts de vermine, de gale et de furoncles suppurants. On pourrait presque les croire morts si on ne sentait pas leur pouls battre régulièrement, quoique faiblement et lentement.
Dans son rapport, le directeur régional de la santé a glissé une photo en noir et blanc. On y voit 10 hommes nus, debout, recroquevillés sur eux-mêmes, la peau sur les os, les orbites creusées par la faim. Cette photo fait penser à celles qui seront prises quelques mois plus tard à la libération des camps d'extermination nazis. Au lendemain de cet événement, ce genre de rapport s'entasse sur le bureau du ministre de la Santé. Mais dans les asiles, les malades mentaux continuent de mourir, en silence. Pourtant, les chiffres sont là. À Clermont-de-l'Oise, ce sont plus de 3000 malades qui sont morts de faim entre 1940 et 1944. Un autre hôpital psychiatrique, celui du Vinatier, en banlieue lyonnaise, détient, lui, un triste record, une mortalité de 38% sur la seule année 42, contre 9% en 1938. Le 26 septembre 1945, lors d'un discours aux Veldives, le ministre de la Santé se contente de reconnaître que depuis 1939, et je le cite, beaucoup d'internés dans les asiles sont littéralement morts de faim. Quant à la population française, elle détourne le regard. Après des années de privation, beaucoup veulent tourner la page. Et puis, dans un contexte mémoriel où le général de Gaulle tient à valoriser l'héroïsme de la population française face à l'occupant, les souffrances endurées se retrouvent vite hiérarchisées. Les victimes anonymes, fauchées par les bombardements ou la famine, sont reléguées dans les oubliettes de l'histoire. Surtout les malades mentaux. D'autant que, contrairement aux déportés, ils n'ont publié aucun témoignage à la libération. Donc leur cas n'a fait l'objet d'aucune médiatisation. D'où cette question grave. Comment un tel drame a-t-il pu se produire en France? Et surtout, qui sont les responsables de cette hécatombe? Pour résoudre cette énigme, il faut se replonger aux origines de cette affaire qui s'est jouée bien avant la guerre. Remontons le temps jusqu'au 11 mai 1925 à Paris, au 18 rue d'Anguin. Ce lundi matin, les rotatives du Petit Parisien tournent à plein régime. Depuis quelques jours, le journal s'arrache dans les kiosques. Parce que les lecteurs ne veulent rien rater du dernier reportage d'Albert Londres. Après les bagnards de Guyane et les forçats du Tour de France, le célèbre reporter revient avec une série d'articles chocs intitulés « Chez les fous ». Une enquête qui dévoile les coulisses d'un monde parallèle, un monde préhistorique, pour reprendre les mots d'Albert Londres, les asiles d'aliénés.
Chaque asile touche 4 francs par jour et par personne. Avec cette somme, on paye les gardiens et on nourrit des fous à la manière de cochons. Ici, il n'y a pas de fous obèses. Dans les dortoirs, la literie est remplacée par de la paille. L'odeur est épouvantable. C'est un grand fumier humain. Le jour, les mouches chatouillent l'épiderme de ces immobilisés. La nuit, les mouches étant couchées, il ne se passe plus rien. Un décès, parfois, en silence. On ne s'en aperçoit qu'au matin. À l'asile, les lits sont des cercueils sans couvercle.
Au début du 19e siècle, les docteurs Pinel et Esquirol entendaient révolutionner le traitement des maladies mentales en libérant les patients de leur chaîne, en leur offrant des soins plus humains dans des asiles modernes. En grand thaumaturge, ils envisageaient même de guérir les aliénés avec des thérapies novatrices. Mais un siècle plus tard, à la lecture du reportage d'Albert Londres, force est de constater que la révolution promise par les pères fondateurs de la psychiatrie est restée au stade de l'utopie. Grâce à la loi Esquirol de 1838, une centaine d'asiles spécialisés ont fleuri partout en France, certes. Mais dans une logique sécuritaire, thérapeutique et économique, les pensionnaires se sont retrouvés parqués loin des villes, dans des ghettos, oui, des ghettos surpeuplés, coupés de leurs familles. La loi de 1838 n'a pas pour idée de guérir les malades mentaux. C'est une loi de débarras. Les asiles sont des oubliettes modernes, dénonce Albert Londres. Il faut dire que dans l'entre-deux-guerres, la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine. En plus d'être méprisés par leurs pairs, les psychiatres sont dépassés par l'afflux de malades. Certains ont plus de 800 internés sous leur responsabilité et ne disposent même pas du matériel de base pour diagnostiquer et prévenir les épidémies de tuberculose. Quant aux infirmiers sous-qualifiés, ils jouent le rôle de simples gardiens. Sans traitement efficace, les médecins sont donc réduits à entasser leurs patients dans des dortoirs surpeuplés. Pour ceux qui peuvent guérir, il y a les thérapies de choc. Objectif, faire mal au malade pour lui faire du bien. La cure de Sakel, par exemple, est une technique qui consiste à plonger temporairement le malade dans un coma profond en lui injectant une dose massive d'insuline. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le monde asilaire est donc un système archaïque à bout de souffle. Un archipel à la dérive que percute de plein fouet la crise économique des années 30. Le 13 octobre 1937, le ministre de la Santé du Front Populaire diffuse une circulaire pour inciter les départements à moderniser leurs hôpitaux tout en favorisant la réinsertion des malades dans la société. Au passage, les asiles changent de nom pour devenir des hôpitaux psychiatriques. Mais la classe politique reste sourde. Pour beaucoup, les fous sont incurables. Ce sont des non-valeurs sociales. Des fous, quoi. C'est ce que défend Édouard Herriot, président de la Chambre des députés et maire de Lyon, devant le Conseil général du Rhône, le 22 octobre 1937.
Monsieur le préfet du Rhône nous signale, une fois de plus, le douloureux accroissement des aliénés à l'hôpital du Vinatier. 1000 malades de plus en 10 ans. Non seulement il y a là une indication très importante pour l'avenir de la race, mais cet accroissement accable surtout les comptes publics. Un fou qui a séjourné pendant 10 ans à l'asile aura coûté à la collectivité 80 000 francs. C'est-à-dire plus qu'il ne serait nécessaire pour éduquer dans des conditions heureuses un enfant. On a donc raison de dire qu'il vaut mieux laisser pourrir un aliéné et sauver un enfant.
Quelques semaines après ce discours dénué de tout humanisme, voire pousse au crime, le préfet du Rhône commande à la faculté de médecine de Lyon un rapport sur les moyens de lutter contre l'hérédité pathologique, en particulier la stérilisation des malades mentaux. Même s'il s'oppose à toute amputation de ce genre, le professeur Rocher partage la préoccupation d'Edouard Herriot devant, et je le cite, « l'augmentation du nombre de tarés et des déchets sociaux qui contribuent à la dégénérescence de la race ». Alors, comment expliquer qu'un homme politique de premier plan, secondé par un prestigieux professeur de médecine, puisse tenir de tels propos? Que tiendront ensuite les nazis? Eh bien, la réponse tient en un mot, eugénisme, qui signifie en grec « bien-né ». La paternité du terme revient à Francis Galton, un scientifique britannique, persuadé que le génie de l'élite victorienne auquel il appartient est héréditaire. À la fin du 19e siècle, en pleine révolution industrielle, les épidémies, la criminalité et l'alcoolisme sont pour lui autant de manifestations de la dégénérescence de la race blanche contaminée par des souches inférieures, à savoir les immigrés, les prostituées et les criminels, sans oublier ce qu'on appelle à l'époque les fous. Les obsessions de Galton sont telles qu'il théorise l'eugénisme, une pseudo-science qui doit régénérer biologiquement l'espèce humaine en s'appuyant sur les progrès de la médecine et le contrôle des naissances. En d'autres termes, il veut donner aux races considérées comme les plus douées un plus grand nombre de chances de prévaloir sur les races jugées moins bonnes. Dans les années qui suivent, les travaux de Galton infusent en Europe. Et s'il fait débat au Royaume-Uni et en France, où aucune loi n'est votée, l'eugénisme séduit une partie des États-Unis, de la Suisse et des pays scandinaves qui adoptent des lois pour stériliser les faibles d'esprit. Mais c'est en Allemagne, on l'a dit, que l'eugénisme va connaître son apogée. Dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, des milliers de malades mentaux sont stérilisés de force, considérés comme une menace pour la race aryenne. Et dans les cinémas, la propagande se met vite en place.
Des individus génétiquement sains habitent dans des ruelles étroites et sans lumière, dans des maisons à moitié en ruine. Alors que pour les idiots et les demeurés, on a construit des palais.
Das deutsche Volk, es kennt nicht den drückenden Geist jener Häuser, in denen tausende.
Des milliers d'imbéciles balbutiants inférieurs à tout animal doivent être soignés et artificiellement nourris. Nous les soignons, mais nous empêcherons leur reproduction. Seul un peuple sain et fort vivra.
Alors que l'Europe court tout droit vers la guerre, en France, un livre se vend à des centaines de milliers d'exemplaires. Son titre, L'homme, c'est inconnu. Son auteur, le Lyonnais Alexis Carrel, pionnier de la chirurgie vasculaire et prix Nobel de médecine. Après avoir passé l'essentiel de sa carrière à New York, au sein du prestigieux Rockefeller Institute, voilà ce qu'il préconise pour sauver l'espèce humaine.
Les maladies de l'esprit deviennent menaçantes. Elles sont devenues plus dangereuses que la tuberculose ou la peste. Les anormaux empêchent le développement des normaux. Il faut rejeter le sentimentalisme aveugle qui a poussé la société moderne à s'occuper des déficients et des criminels. Un établissement euthanasique pourvu de gaz appropriés, permettrait d'en disposer de façon humaine et économique.
À la fin des années 30, le manifeste eugénique du docteur Carrel s'arrache en librairie, à tel point qu'il se retrouve traduit en 18 langues. Dans la préface de l'édition allemande, le chirurgien lyonnais tient à saluer les mesures énergiques prises par Adolf Hitler. Il faut dire que Carrel déteste la démocratie. Membre du PPF de Doriot, le parti fasciste français, il rêve de la remplacer par une biocratie, un système politique basé sur l'eugénisme, avec comme fondement l'ordre, la science et la justice. Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'hécatombe des fous.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Amazon is. Wenn unser Wille so stark ist, dass keine Not die mehr zu zwingen vermag, dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf die Not meistern. Deutschland, sieg ein!
Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne et fait basculer l'Europe dans la guerre. Au même moment, il lance l'Action T4, un programme secret qui prévoit l'euthanasie de tous les malades mentaux, y compris les enfants. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des médecins donnent la mort à leurs propres patients. Jugée trop lente, l'euthanasie médicamenteuse, ou par la faim, est rapidement remplacée par des centres de mise à mort équipés de chambres à gaz et de fours crématoires. Entre 1939 et 1945, plus de 300 000 malades mentaux sont ainsi exterminés en Allemagne et dans les territoires annexés. Le 10 mai 1940, après plusieurs mois d'attente, Hitler lance une attaque éclair sur les Ardennes. En quelques jours, des millions de Français sont jetés sur les routes de l'Exode. Dans ce convoi tragique, on retrouve des femmes, des vieillards, des enfants, mais aussi des malades mentaux qui quittent un enfer pour un autre.
La puissance allemande a frappé vers le centre de la France. Voilà ce que c'est que la guerre. La guerre ne consiste plus en place prise, en victoire ou en défaite, mais la guerre, ça veut dire que des gens moyens qui travaillent aux champs, à l'usine, au bureau, s'enfuient affamés, pris de panique, sans ressources et sans amis. Parce que dans un monde égoïste, ils étaient seuls.
Une fois l'armistice signé avec Hitler, et après avoir liquidé la République, le maréchal Pétain s'arroge les pleins pouvoirs. Paris n'est plus la capitale, le pays est dirigé à Vichy, plus précisément depuis le troisième étage du luxueux hôtel du Parc. Le 17 septembre 1940, dans la chambre numéro 124, c'est l'effervescence. Derrière son bureau, entouré de ses conseillers, Philippe Pétain s'apprête à signer un énième décret. Car durant l'été, la désorganisation économique et surtout le pillage systématique de l'occupant ont fait ressurgir le spectre d'un mal oublié, la famine. Alors, pour calmer la colère qui gronde, le régime de Vichy met en place un système de rationnement avec des cartes d'alimentation attribuées à chaque Français en fonction de son âge et de son métier. L'adulte moyen doit désormais compter sur 1200 calories alors qu'il en faudrait près du double. Résultat, de plus en plus de Français ont recours au système D. Le Secours National, lui, organise des soupes populaires, le marché noir se développe et des manifestations de ménagères se multiplient pour protester contre les restrictions. Le 24 décembre 1940, alors que la France connaît l'un des hivers les plus durs de son histoire, le vieux maréchal prend la parole sur Radio Vichy.
Mes chers amis, il n'est pas encore minuit, mais déjà, beaucoup d'entre vous veillent, comme ils veillaient au cours des années heureuses. Pour la plupart d'entre vous, ce Noël sera triste. Je pense ce soir à ceux qui ne mettront dans leur cheminée ni bûche, ni charbon, et qui ne savent pas ce qu'ils mangeront demain. Je pense aux pauvres, à ceux des asiles de nuit et des soupes populaires, aux chômeurs, à tous les malheureux. Ayez confiance, reprenez courage. Serrez-vous ce soir autour de moi pour qu'une France neuve et saine grandisse et se fortifie. Bon Noël, mes enfants, et vive la France.
Pétain se présente comme le protecteur des miséreux. Mais en réalité, derrière ces airs de grand-père des bonheurs, le vieux maréchal détourne le regard. Car si l'écrasante majorité de la population ne parvient pas à manger à sa faim, en particulier dans les villes, les hôpitaux psychiatriques, eux, sont devenus de véritables mouroirs. Certains malades se mettent à ingurgiter leur matière fécale. D'autres vont jusqu'à manger leurs propres doigts. Pardon pour ces détails sordides, mais telle a été la réalité qu'il ne faut pas occulter. Détail glaçant. Au Vinatier, les arbres de l'hôpital sont dépouillés de leurs écorces jusqu'à hauteur d'homme parce que les patients les ont rongés. À l'hôpital de Saint-Égrève, près de Grenoble, voilà ce qu'on donne aux malades. Le matin, une soupe préparée avec 10 grammes de navets, autant de pommes de terre et de choux. Le midi, 15 grammes de bœuf, 125 de carottes et 250 de navets. Le soir, un peu de soupe accompagné de 250 grammes de choux, sans oublier 250 de pain à répartir sur ces trois repas. Face à la famine, les psychiatres sont désemparés, comme en témoigne ce rapport des médecins-chefs de l'hôpital de Maison-Blanche en région parisienne.
Aux heures des repas, les malades guettent l'arrivée des chariots. Chacun compare le morceau de pain de l'autre. Les infirmières doivent intervenir pour que les plus faibles ne soient pas dépouillés. Les aliments sont saisis à pleine main, la mastication a disparu. Beaucoup fouillent dans les poubelles. Certains vont jusqu'à manger les pissenlits et les coquilles d'œufs. D'autres chassent le hérisson, les couleuvres et même les chats. La faim poursuit les malades jusque dans leurs rêves.
Pourquoi les hôpitaux psychiatriques sont-ils si durement touchés par la famine? La première explication tient en un mot, l'isolement. Alors que le reste de la population peut se déplacer pour compléter sa maigre ration journalière, les malades mentaux, eux, ont l'interdiction de sortir de l'hôpital. Coupés de leur famille qu'ils ont souvent abandonnée là, à l'asile. Ils ne peuvent donc compter que sur les tickets de rationnement, insuffisants pour survivre. Et puis il y a le coulage. En ces temps de privation, certains employés se mettent à voler dans les cuisines de l'hôpital. Clermont-de-l'Oise est même surnommée la Samaritaine, en référence au grand magasin parisien, bien sûr. Quant aux fermes construites à l'intérieur des asiles, censées assurer leur autosuffisance, elles doivent, comme toutes les fermes du pays, livrer l'essentiel de leur production à Vichy pour ensuite être redistribuées à la population, mais surtout pour nourrir les troupes d'occupation et soutenir l'effort de guerre allemand. À cela s'ajoute la bureaucratie et son inertie. Pour les directeurs d'hôpitaux, chaque commande de nourriture relève du parcours du combattant. D'autant que les grossistes, peu scrupuleux, préfèrent vendre leurs marchandises à des particuliers qui, eux, sont prêts à payer plus cher, et directement, en liquide. Enfin, il ne faut pas oublier que les asiles regorgent de vieillards, d'anciens combattants et de malades chroniques. Des patients fragilisés par des années d'internement et donc très vulnérables face à la famine, au froid et aux épidémies. Joseph S., interné à l'hôpital du Vinatier depuis près de 15 ans, se retrouve ainsi pris au piège de cet engrenage mortel. Le 26 août 1941, il écrit à sa cousine, sans savoir bien sûr que deux ans plus tard, il sera emporté par la tuberculose.
Chère cousine, j'ai bien reçu votre lettre du 2 août 1941. Sachez qu'ici, je suis soumis à de sévères restrictions, ce qui a provoqué chez moi un amaigrissement considérable. Plus de 35 kilos. Quelle triste existence que je mène dans cet asile. Aucune liberté et mal nourri. Toute la cuisine est faite à l'eau, rien qu'à l'eau. Si vous venez, je vous en supplie, apportez-moi du tabac, car il m'est impossible d'en trouver ici.
Jusqu'en 1941, les psychiatres tentent d'expliquer la surmortalité des handicapés mentaux à grand renfort d'arguments scientifiques. Ils évoquent par exemple une hypersensibilité aux carences en vitamine B, avant de se rendre rapidement à l'évidence, leurs malades meurent tout simplement de faim. Abandonnés par un état défaillant, certains psychiatres s'improvisent apprentis sorciers et injectent à leurs patients du sérum de bœuf, faute de mieux. Dans le documentaire « La fin des fous », Françoise Baudouin, la fille du médecin-chef de l'hôpital de Maréville, raconte l'impuissance du corps médical.
En sortant du jardin, je suis tombée sur 4-5 formes qui grouillaient au sol. Et c'était des malades qui se battaient pour ramasser des pommes tombées. On voyait qu'ils souffraient et on se sentait impuissants. Et nous, quand même, on ne mourait pas de faim. Donc je crois que la honte, elle était bien présente. Le malade qui faisait office de jardinier à la maison, il s'appelait Béraud, il nous a montré sa ration quotidienne. C'était un croûton de pain noir. Je revois son geste, il faisait comme ça, pour nous montrer le magma visqueux qu'il y avait au centre. C'était du pain de betterave.
Tout au long de l'année 1941, Vichy reste sourd face aux appels à l'aide des directeurs d'asile. Le régime s'en remet, je cite, à l'ingéniosité des médecins, tout en privilégiant le ravitaillement des enfants, des femmes enceintes et des travailleurs. Car dans le cadre de la révolution nationale théorisée par Pétain, ce sont eux qui doivent régénérer le pays. Un pays corrompu par les éléments impurs que sont les juifs, les communistes, les francs-maçons et les étrangers, on connaît la musique. Pour mener à bien sa révolution, Pétain fait donc appel à un vieil ami, le docteur Alexis Carrel. Le revoilà. Propulsé à la tête de la Fondation française pour l'étude des problèmes humains, le médecin, enfin officiellement médecin, expose son programme sur Radio Vichy le 24 février 1942, piétinant au passage tous les principes et valeurs du serment d'Hippocrate, doublé d'un pouce au crime criminel de masse.
Heureusement, le maréchal ne se préoccupe pas seulement de gouverner, mais aussi de prévoir loin. Et rien n'importe plus actuellement que de prévoir la destinée de la population. C'est pourquoi la Fondation française pour l'étude des problèmes humains a été chargée de l'étude sous tous les aspects des mesures les plus propres à sauvegarder, améliorer, développer la population française dans toutes ses activités.
En 1942, les cimetières des asiles débordent. À Clermont-de-l'Oise, le corbillard transporte jusqu'à 10 cadavres par jour. Dans certains hôpitaux psychiatriques, ordre est donné d'alimenter en priorité les malades dits « récupérables ». Face à l'immobilisme de Vichy, plusieurs psychiatres décident de sortir du bois. Paul Balvet est l'un d'eux. Le 28 octobre 1942, à Montpellier, lors du congrès des médecins aliénistes, ce pétainiste de la première heure met ses collègues devant leurs responsabilités. « Continuer ainsi n'est plus possible. Notre corporation doit choisir entre la déchéance et la vie. » Des années plus tard, il dira « J'ai donné cette conférence en 1942. Indifférence. Tout le monde s'en foutait. Puis, tout le monde avait faim. De fait, quand on a faim, on ne pense pas. » Un mois seulement après le congrès de Montpellier, Vichy fait pourtant volte-face. Le 4 décembre 1942, une circulaire accorde des rations supplémentaires aux malades mentaux. Ce qui ne manque pas de faire réagir certains membres de l'Académie de médecine. Je connais beaucoup de travailleurs sobres et mal alimentés qui seraient heureux d'être aussi bien traités, déclare à la tribune l'ineffable docteur Martel. Mais que ça lui plaise ou non, grâce à la circulaire de Vichy, la mortalité baisse en flèche, puis elle se stabilise jusqu'à la libération. Dans les décennies d'après-guerre, ce drame n'intéresse personne. Seuls quelques psychiatres portent cette mémoire en témoignant à la radio ou dans la presse. Mais il faut attendre le 10 juin 1987 pour que cet épisode soit connu de tous. Ce jour-là, alors que la France vit depuis plusieurs semaines au rythme du procès Barbie, le journal Le Monde publie un article choc intitulé « Les asiles de la mort » qui résume les travaux d'un jeune psychiatre lyonnais, Max Lafont. Il vient de publier sa thèse sous un titre ouvertement provocateur « L'extermination douce ». Accusateur, il sous-entend que le régime de Vichy a profité de la famine pour se débarrasser des fous, au nom des principes eugénistes du docteur Carrel. L'article fait l'effet d'une bombe. Des psychiatres, accusés de négligence et même de complaisance avec Vichy, s'insurgent dans les colonnes du Monde. Des manifestations sont même organisées dans les hôpitaux. Quant à Max Lafont, il profite d'une invitation à la télévision pour faire un parallèle hasardeux entre la mort des malades mentaux sous l'occupation et les récentes coupes budgétaires dans les hôpitaux psychiatriques.
Aujourd'hui encore, même si on peut espérer qu'un phénomène d'extermination ne peut pas recommencer, à chaque instant, il y a toujours une façon particulière de traiter les malades mentaux. Par exemple, en leur attribuant des prix de journée qui baissent en ce moment, en suggérant qu'il faut qu'ils payent un forfait journalier plus important que les autres patients dans les autres hôpitaux. Enfin, des choses comme ça qui sont, à mon avis, très nettes et qui expriment qu'il faut être vigilant et qu'on doit dire aujourd'hui, attention, des choses peuvent recommencer.
Face à la polémique, les historiens s'emparent du sujet. Et leurs conclusions sont sans appel. Oui, il y a bien eu plus de 40 000 morts dans les hôpitaux psychiatriques sous l'occupation, victimes de la famine et du froid. Mais aucune preuve ne permet de dire qu'il s'agit d'une extermination orchestrée par Vichy. Quant au docteur Carrel, il n'a eu aucune influence sur la politique du maréchal et encore moins sur l'administration des hôpitaux psychiatriques. C'est pourtant cette thèse qui est tranquillement reprise dans un long reportage de la Marche du siècle, diffusé en prime time sur France 3, le 30 juin 1993. Après le reportage, des historiens sont invités à réagir en plateau. La réponse de Denis Péchanski, spécialiste du régime de Vichy, ne se fait pas attendre.
Je suis un petit peu surpris puisque des travaux sont publiés depuis le début des années 90 par Olivier Bonnet ou Claude Quettel sur la surmortalité asilaire en France. Et le point a été fait, mais si on cherche les raisons, il ne faut absolument pas trouver dans une volonté exterminatrice du régime de Vichy. Il y a suffisamment de cadavres dans le placard de Vichy pour en rajouter. Si on m'amène des documents, et jusqu'à présent, on n'en a pas amené, qui montre qu'il y avait une volonté idéologique, politique d'extermination des malades mentaux, soit.
Dans les années qui suivent, la polémique ressurgit à intervalles réguliers, avec la publication de livres, l'inauguration de mémoriaux, ou encore l'organisation de manifestations pour débaptiser les rues qui portent le nom d'Alexis Carrel. Quant aux historiens, accusés par certains psychiatres de défendre Vichy, il continue d'éplucher les archives à la recherche de nouveaux documents. Des documents qui prouveraient la volonté exterminatrice du régime. Mais en vain. Le 10 décembre 2016, après des années de controverses, François Hollande inaugure une plaque sur le parvis du Trocadéro en hommage aux malades mentaux morts de faim sous l'occupation. Dans son discours, le président insiste sur un point capital. Cette hécatombe n'a été ni voulue ni planifié par Vichy, comme ce fut le cas en Allemagne. Non, elle fut le résultat de décennies d'indifférence collective. En 1943, le poète et résistant Paul Éluard avait trouvé refuge à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban. Dans cet ancien château transformé en asile, perdu au fin fond de la Lozère, Éluard avait écrit ces quelques vers, comme pour redonner un peu d'humanité à ces milliers de vies balayées par la haine et par l'oubli.
Le cimetière, archipel de mémoire, vie de vent fou et d'esprit en ruine, 300 tombeaux réglés de terre nue, pour 300 morts masqués de terre, des croix sans nom, corps du mystère. La terre éteinte et l'homme disparu, les inconnus sont sortis de prison, coiffés d'absence et déchaussés, n'ayant plus rien à espérer. Les inconnus sont morts dans la prison. Leur cimetière est un lieu sans raison.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'hécatombe des fous. On en parle avec notre invitée, l'historienne Isabelle von Binslings-Loven. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié en 2009 aux éditions Flammarion « L'hécatombe des fous », un livre qui fait référence aujourd'hui. Hein. Et qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à enquêter sur ce sujet ?
Alors en fait, moi je suis rentrée dans le conseil scientifique de la ferme du Vinatier, qui était une entité culturelle qui venait d'être créée au sein de cet hôpital psychiatrique dont vous avez parlé. Et au départ, j'ai surtout participé à une exposition qui relatait l'histoire de l'hôpital. Et donc, en interrogeant toutes sortes de témoins, je me suis rendu compte que finalement, la Seconde Guerre mondiale restait une sorte de trou noir dans l'histoire de l'institution.
Alors, on va écouter une archive d'abord. Nous sommes le 17 novembre 1973. Le psychiatre et résistant communiste Lucien Bonafé fait cette déclaration choc sur les ondes de France Culture.
L'extermination des malades mentaux en France pendant la guerre est un fait complètement méconnu.
On a exterminé, enfin on n'a pas exterminé
comme les nazis. Non, il y a une nuance importante. Les nazis les ont assassinés à la chambre à gaz, etc. Ou diverses expérimentations dites médicales. En France, on a réduit pour les hôpitaux psychiatriques les rations alimentaires et les rations de charbon. J'étais interne à ce moment-là et je passais tous les matins la visite dans le moridurium, n'est-ce pas, qui sentait le cadavre, on déblayait les cadavres le matin. Et j'ai connu, moi, la pathologie concentrationnaire. Mais vérité est tellement traumatisante que tous les efforts que nous avons consacrés à lui donner de l'audience, n'est-ce pas, ont été très écrasés. Et c'est inconcevable que quand on dénonce cette situation, eh bien, on se heurte à une véritable conspiration du silence.
Vous êtes d'accord ? Conspiration du silence après la guerre ?
Oui, alors je pense qu'il faut rappeler que Lucien Bonafé est un grand militant, a été un grand indigné. C'était quelqu'un de vraiment d'adorable. Hein. Mais il m'a quand même expliqué dans l'entretien que les historiens étaient des fouilles merdes dont on pourrait...
On dit ça des journalistes aussi.
C'est vrai. Et on n'était pas du tout dans le même registre. Ça ne nous a pas empêchés de se parler. Alors, une conspiration du silence, je pense qu'on ne peut pas dire ça. Effectivement, vous l'avez dit, hein, plusieurs reprises, les psychiatres se sont exprimés dans les journaux, à la radio, dans des congrès. Et on parlait de cet épisode-là. Mais simplement, à ce moment-là, personne n'était prêt à les entendre ou à les écouter. Et en particulier, au sortir de la guerre en 1945, l'heure n'était pas à comptabiliser les victimes, ni même à les différencier. Les seules victimes qui comptaient, c'était les résistants, c'est le fameux mythe résistentialiste. Et donc, voilà, il a fallu attendre les années 70 pour sortir de cette logique mémorielle-là et pour prendre en compte, effectivement, petit à petit, d'autres catégories de victimes.
Alors, je reviens à ma question initiale, cette politique eugéniste déclenchée par Vichy pour donner des gages au régime nazi, à l'occupant, vous n'êtes pas d'accord ?
Alors non, parce que c'est le résultat finalement d'une enquête qui, vous l'avez dit, a duré 5 ans. Quand j'ai entamé l'enquête, j'ai commencé à faire ce qu'un historien fait toujours, c'est-à-dire réunir un maximum d'archives, les confronter entre elles, les croiser, et puis interviewer aussi des témoins, et pour constater que vraiment aucun élément ne pouvait laisser à penser qu'il y avait eu une volonté exterminatrice de la part du régime, et qui dit extermination dit intentionnalité. Ouais. Il n'y a pas eu d'intention.
Mais les faits qu'on a exposés dans le récit, ceux-là, ils sont vérifiés.
Oui, effectivement, les faits sont réels et il ne s'agit pas du tout de dire que les malades mentaux qui sont morts entre 40 et 45 sont des victimes collatérales. Hein. Ce sont des victimes de guerre à part entière, en tout cas pour moi, qui considère que les victimes civiles sont des victimes de guerre à part entière et pas seulement les soldats.
Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Le résultat de votre enquête, il y a plusieurs points qui sont importants. Qu'est-ce qu'il faut retenir ?
Il y a eu une conjoncture très particulière, c'est-à-dire cet état de famine qu'on a souvent appelé famine lente dans les textes, qui a touché donc l'ensemble de la population française, mais qui a eu des effets, des effets vraiment terribles dans des milieux particuliers qui sont les milieux fermés. Donc on pense à trois lieux en particulier, les hôpitaux psychiatriques, mais aussi les prisons
évidemment.
Et les camps d'internement, ne les oublions pas. Et qui a aussi eu des conséquences dramatiques dans des lieux qu'on dit semi-fermés, Donc, par exemple, je pense aux hospices de vieillards. On sait qu'il y a eu 50 000 morts de faim dans les hospices de vieillards. Et, par exemple, dans les orphelinats aussi, où les enfants, du fait de la sous-alimentation, ont contracté des maladies qui se sont révélées mortelles.
Alors, est-ce qu'il y a une hiérarchisation, finalement ? Est-ce que dans l'esprit de Vichy, il y avait une hiérarchie dans le malheur ? C'est-à-dire que la famine touchait tout le monde. Bon, si ça touchait les handicapés mentaux, c'était considéré comme moins grave.
Alors, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça. Je pense que pour répondre à cette question, il faut se reposer la question de l'eugénisme ambiant qui pouvait régner à cette période-là. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on avait un certain nombre de personnalités importantes qui étaient... qui défendait des thèses eugénistes, hein, vous l'avez vu dans le cas d'Édouard Herriot, c'est quand même le président du Conseil.
Hein, oui.
Il est maire de Lyon par ailleurs, hein, mais il est aussi à certains moments président du Conseil. Donc cet eugénisme ambiant qu'on relie à Carrel, mais qui est défendu par d'autres, c'est certain qu'il joue un rôle dans la façon dont on prend en considération les malades mentaux, dans la façon dont on les traite de déchets sociaux.
D'où ma question. C'est moins grave, mais c'est une partie de la population déjà abandonnée dans les esprits.
Oui, c'est probablement vrai, mais force est de constater à l'issue, en tout cas de mon enquête, que l'argument humaniste l'a emporté sur l'argument eugéniste et sur l'argument économique.
Alors, redites-moi
peut-être
ça.
De
précisez-moi
justesse.
Ça, parce que c'est quand même...
Peut-être de justesse, hein, c'est possible. C'est-à-dire que les médecins des hôpitaux psychiatriques sont arrivés à faire valoir qu'on ne pouvait pas abandonner ces malades pour des raisons éthiques, civilisationnelles. Et ceux qui se sont exprimés avec le plus... j'allais dire de ferveur, ce sont les psychiatres catholiques, tels que Henriet, par exemple. Et on sait que le catholicisme a joué un grand rôle en France dans la prise en considération des théories eugénistes.
Alors pourquoi ce bilan ?
Le fait que les circuits d'approvisionnement des hôpitaux psychiatriques, qui étaient extrêmement cadrés, s'effondrent d'un seul coup. Le fait que dans des hôpitaux, il y a 2000, 3000 malades, comment faire pour aller chercher, pour compléter finalement les tickets de rationnement, puisqu'on ne peut pas survivre dans une grande ville sans compléter sa ration alimentaire. Et donc, admettons, l'économe d'un hôpital psychiatrique trouvait 300 kilos de pommes de terre au marché libre, je ne parle pas du marché noir, ça pouvait paraître une aubaine, enfin pour 2000 malades, c'était rien du tout. Et quant au marché noir, là, effectivement, il y avait une impossibilité administrative.
France Inter. Sensible.
Isabelle von Bünzingsloven, je rappelle que vous êtes historienne, que vous avez publié en 2009 chez Flammarion le livre « L'hécatombe des fous ». On va écouter une autre archive. Nous sommes le 7 mai 2007. L'historienne Elisabeth Roudinesco est l'invitée des lundis de l'Histoire sur France Culture. Elle est interrogée sur la thèse du psychiatre Max Lafont, dont nous avons parlé pendant le récit. Cette thèse, c'est « L'extermination douce ». Thèse qui avait déclenché la polémique en 1987.
Cette thèse venait tout de même de la gauche psychiatrique. C'est-à-dire, tout le monde déteste Vichy. On a profité de ça pour ajouter une responsabilité qui n'y est pas. En fait, c'est très grave d'inventer un génocide ou une extermination fabriquée, intentionnelle, quand elle n'a pas eu lieu. Et c'est grave pour ceux qui s'en font les porte-paroles, parce qu'ils s'enfoncent dans l'erreur historique. Et je pense qu'il y avait là, derrière... un règlement de compte aussi sur l'état de la psychiatrie. C'est-à-dire qu'ils ont mélangé deux débats pour s'enfoncer comme ça dans l'erreur. Et il s'agissait de critiquer aussi la psychiatrie d'aujourd'hui, contemporaine, en s'aidant du passé. Et ça, c'est une erreur très grave.
Vous partagez le constat d'Elisabeth Roudinesco ?
Oui, je le partage. Hein. Par contre, je serai moins sévère qu'elle en insistant sur le fait que les Lucien Bonafé, les Max Lafont, et on pourrait en citer d'autres, se sont comportés en militants. Et donc, et puis après tout, ils défendaient une cause juste, hein, qui était effectivement l'insuffisante financement de la psychiatrie publique. Ils sont comportés en militants, et le problème est venu du fait fait qu'ils ont eu beaucoup de mal à admettre qu'une historienne vienne bousculer leurs certitudes.
Ah. Alors, parmi le bousculement des certitudes, vous avez enquêté sur ce qu'on appelle les malades anonymes, vous avez reconstitué des parcours ?
Oui, alors ça a été vraiment quelque chose que j'ai... Enfin, auquel j'ai accordé beaucoup d'importance et qui était tout à fait neuf à l'époque. Hein. Ça ne l'est plus maintenant, entre-temps. Hein. Mm-hmm. Mais il se trouve que j'ai pu avoir, dans le cadre de l'enquête, j'ai pu avoir accès par dérogation, non seulement à ce qu'on appelait les registres de la loi, c'était les livres d'entrée, hein, les registres d'entrée de l'hôpital, ce qu'on appelle les registres de la loi, parce que la loi de 1838, et ces registres contenaient énormément d'informations personnelles très utiles sur chaque malade, mais ensuite j'ai découvert que je pouvais aussi avoir accès aux dossiers administratifs et médicaux des malades et faire le lien donc avec les registres. Alors tous n'ont pas été conservés, mais ce que j'ai pu constater, c'est que c'était une source absolument remarquable, hein, polyphonique et extrêmement riche. Alors vous allez trouver dans un dossier de malade des certificats administratifs, ça c'est attendu, mais aussi des mentions des médecins et des soignants qui décrivent l'évolution du comportement des malades, en particulier lorsqu'ils ont faim. Vous allez trouver des choses sur les traitements qui leur sont prescrits, mais aussi des petits mots, des poèmes, des dessins qui sont adressés ou glissés dans la poche du médecin lors de la visite, et aussi des courriers des familles adressées soit aux médecins soit aux malades, et des courriers des malades qui ont été retenus dans le dossier, c'est-à-dire qui sont jamais partis. Et ça permet d'incarner, hein, tout ce travail que j'ai bien pu sûr faire et à ne pas se limiter à des chiffres ou à des statistiques.
Et vous avez été contacté par des familles ?
Oui, alors beaucoup à la sortie du livre, une cinquantaine à peu près. Alors là, il y avait des demandes qui étaient assez différentes. Hein. Dans certains cas, les familles cherchaient à retrouver le dossier de leur malade, dont ils savaient à peu près, c'était assez inexact, enfin assez peu précis, qu'ils étaient morts dans un hôpital psychiatrique pendant la guerre. Mais ce qui a surtout été intéressant pour moi et qui a conditionné la suite de mes travaux, c'est que très souvent, il était question de secrets de famille. C'est-à-dire, ces malades, ils avaient été tout simplement effacés de la mémoire familiale. Il n'en restait à peu près rien. Et donc, ça a été beaucoup plus compliqué d'accompagner ces familles-là qui avaient très peu d'informations en réalité.
Alors, pour le mot de la fin, je retiens, vous me dites si j'ai bien compris tout ce que vous m'avez dit, qu'il n'y a pas eu de plan d'extermination des malades mentaux organisés par le régime de Vichy avec cette intention-là, oui ou non ?
Alors la réponse est effectivement, il n'y a pas eu de plan d'extermination, il n'y a pas eu d'extermination tout court. Une des autres preuves, hein, c'est cette fameuse circulaire de décembre 42 dont vous avez parlé, mais aussi le fait qu'on a un certain nombre d'hôpitaux, par exemple ceux situés dans l'ouest de la France, où, de par les conditions assez bonnes d'approvisionnement, il y a eu très peu de morts.
Merci infiniment pour
Merci
tous ces éclairages, pour ce travail que vous avez fait autour de ce sujet qui n'est pas franchement connu, hein, qui avait besoin d'être mis au jour. Merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'Hécatombe des Fous, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Raphaël Rousseau.